Bienvenue, je suis Dave et vous écoutez XCast. Le podcast subjectif et subversif, 100% Xbox. Sorti le 29 août 2023, Under the Wave est révélé lors de la Gamescom en 2022. C'est aussi le quatrième jeu du studio parisien Parallel Studio, soutenu et édité sur ce coup par Quantic Dream. Oui, Quantic Dream sur Xbox, et ça faisait longtemps, depuis Fahrenheit en 2005, que le développeur éditeur n'avait pas foutu les pieds sur la console de Richmond. En ce qui me concerne, les jeux Quantic Dream, c'est giga bof, car ils sont réputés pour des gameplays ennuyants, et l'achat d'un jeu édité par une boîte que j'aime pas trop, vous voyez ce que je veux dire. Mais si le jeu est bel et bien en review ici, c'est que je me suis laissé convaincre par quelque chose, et je vous le donne en mille, l'originalité de la proposition. Des enjeux d'exploration sous-marine, ça ne court pas les rues, et le jeu laissait planer un je ne sais quoi d'étrange et de poétique, et puis ça semblait très joli. Ce que j'ignorais, c'est que le jeu avait reçu le soutien de la Surfrider Foundation, et dès qu'il s'agit de soutenir des actions sur les bébêtes qui vivent dans la Lolo, mon cœur est tout moumou. C'est donc la tête la première que je me décide de plonger dans Under the Wave. Notre personnage Stan est un plongeur professionnel. C'est un personnage blessé et fragilisé par la mort tragique de sa petite fille Pearl. Il a perdu son travail et n'arrive plus à communiquer avec sa femme Emma. La seule façon pour lui de rompre avec le monde réel est de s'abandonner à son amour pour la Grande Bleue. Et grâce à Tim, l'ami de son père, lui-même marin plongeur, Stan a repris du service. Il est cette fois en charge de l'entretien d'une base sous-marine futuriste automatisée qui appartient à Unitrench, un géant du pétrole. Seulement, Emma est une militante écologiste, et vous l'avez compris, pas vraiment contente du nouveau job de Stan, rendant leur interaction encore plus désastreuse. Stan se sent seul et incompris, mais lors d'une mission, il fait une rencontre avec une méduse luisante qui semble lui parler. Autant se jeter à l'eau, Under the Wave est un jeu narratif, littéralement. Et donc, on est en droit d'attendre un gameplay minimaliste et un game design linéaire. Ce sera bien le cas pour le gameplay. Majoritairement, des actions uniques comme appuyer ou maintenir un bouton du pad, faire des ronds avec les sticks pour tourner le volant de la porte d'un sas, rien de foufou. En revanche, on se promène en nageant ou en sous-marin autonome. Et c'est amusant de voir que les sensations d'apesanteur et d'inertie sont vraiment très différentes selon le moyen de locomotion. La physique est un des vrais points forts du jeu, indissociable, selon moi, de la narration. On a vraiment l'impression de flotter ou d'être bercé par le courant marin. Ce qui est drôle, c'est qu'on n'arrive pas à savoir si le jeu manque de précision dans les déplacements du personnage ou si c'est une volonté de la part du développeur. Pour le game design, on évolue toujours à 360 degrés et dans tous les plans, que l'on soit en sous-marin, que l'on quitte à loisir, ou en nageant. Et on évolue dans un monde ouvert, ce qui est assez original pour un jeu narratif. Alors, un petit open world, certes, avec une topographie riche et des verticalités vraiment très abruptes. La plupart du temps, couplée à une visibilité assez réduite, à cause du trouble de l'eau, et pas d'un défaut technique. L'exploration est donc favorisée. Couplée à une physique réaliste, certains moments de pilotage ont été suffisamment délicats pour que je tire la langue comme un écolier qui s'applique lors d'un exercice d'écriture pour que la boucle du L minuscule s'arrête tout juste sous l'interligne. Bon, j'ai déjà essayé de le faire sans tirer la langue, ça marche pas. Bref. Et puis dans ce monde ouvert, on vous demandera de quitter votre sous-marin pour visiter des salles de la structure à pied pour effectuer vos missions. Il est à noter que le jeu est aussi très lent, logique, et donc pas forcément au goût de tout le monde. comme le framerate à 30 FPS sur console, me semble-t-il. Quoi qu'il en soit, c'est toujours en raccord avec ce genre de proposition vidéoludique. Pour ce qui est de la DA, on est sur un parti pris presque cartoon, un petit peu à la Sea of Thieves en plus détaillé. Tout est rondouillard et très coloré, particulièrement dans les passages à pied, dans les salles de la base où les couleurs sont parfois même un petit peu trop saturées, où des halos très prononcés rendent le jeu parfois très flou, voire illisible par moments. Alors c'est très utile pour l'immersion, mais pas vraiment pour le joueur. Mais globalement, les éclairages sont sublimes, surtout sur les textures et le rendu des rayons de soleil à travers l'eau et sur le sable au fond de l'eau, et cela participe grandement à la réussite du jeu, tout comme la musique. L'OST du jeu est complètement en raccord avec les graphismes. On vadrouille entre rock et musique électronique planante. Et pour les vieux chauves comme moi, certains passages musicaux vous rappelleront un certain compositeur de rock et de musique planante des années 80-90, Vangelis. Et puis, il y a de la vie, bon sang, des poissons, des requins, des baleines, des orques, des dauphins, et puis il y a Joe, le phoque, le seul PNJ du jeu. Et un max de détritus que vous pourrez utiliser pour fabriquer quelques bricoles. Si les dialogues sont bien écrits et les doublages sont très convaincants et complètement doublés en français, j'ai lu ici et là que le deuil, la mort est le thème général du jeu. Mais on capte vite que ce n'est pas le cœur du propos, car les différents socles narratifs du jeu ne vont pas dans cette direction. Le premier est lié au gameplay et au game design, où la structure narrative choisit d'exploiter l'axe de la sensibilisation sur la pollution en haute mer. J'en profite pour vous le redire que le jeu a été créé en partenariat avec Surfrider Foundation, une structure internationale écologique qui lutte pour la préservation et la conservation des océans. Le jeu offre ainsi une formidable opportunité de transmettre des messages de prévention et de sauvegarde, en abordant les questions de pollution de l'eau et l'impact des forages offshore encore méconnus du grand public, ou encore les conséquences de l'activité humaine et du transport maritime sur la biodiversité marine. Et ce, sans en faire des tonnes. Les messages sont justement et intelligemment apportés par des missions, des quêtes qui ont du sens et sans jamais directement pointer du doigt ces industries. Alors ce n'est pas la première fois qu'un tel assemblage entre le JV et cette association se fait. Souvenez-vous, déjà dans Echo the Dolphin sur Mega Drive. $5 étaient reversés à l'association Surfrider, qui à l'époque portait un autre nom. Le partenariat a duré jusqu'à Echo Defender of the Future sur Dreamcast. Et puis, il y a d'autres jeux comme Beyond Blue, qui est un jeu ludo-éducatif, un jeu primé au BAFTA D-Line sur la culture autochtone de l'Alaska. Voilà, c'était ma parenthèse écolo. Et c'est aussi le moment où la sensation de liberté est vraiment palpable. On se sent bien, on est à l'aise, on ressent cette impression de quiétude et d'immensité. Cette sensation de ne faire plus qu'un avec l'océan évoquée par le personnage quand il retourne nager au début du jeu. C'est beau et agréable et on se sent en sécurité. On est très très loin de toute noirceur mortuaire. « Le second consiste à isoler le personnage de toute communication avec le monde extérieur dans les missions en intérieur complètement immergées. Mais jamais, jamais le jeu n'osera s'orienter vers des sensations claustrophobiques. Les espaces sont larges, les accès et chemins très dirigés et très courts, nullement labyrinthiques. Attention, les développeurs avaient vraiment la possibilité de nous rendre les choses vraiment plus angoissantes. Ils pouvaient par exemple jouer avec nos nerfs sur la gestion de l'oxygène quand vous vous baladez à pied. Je veux dire en nageant. Et oui, rappelez-vous, je vous parlais de craft. Et donc oui, vous pouvez fabriquer avec du plastique et des algues des cartouches d'oxygène. Mais jamais, vraiment jamais, vous n'en manquerez. Vous ne subirez aucune pression du jeu. C'est un parti pris volontaire et clairement visible dans le troisième arc narratif, les réalités alternatives. Absolument fan des jeux à réalité alternative, je vous renvoie au dossier de la Blue Board Team, j'ai vraiment été ravi de ce postulat et très attentif. Ces moments arrivent toujours dans les rêves de Stan, et il se réveille toujours avec la même musique au réveil. C'est un petit détail qui relève d'un sentiment de boucle dans laquelle seul Stan est enfermé et dont il cherche à se libérer. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a aucune double lecture dans ses rêves. Ici, on voyage dans l'état d'esprit du personnage de Stan, un homme verrouillé entre deux mondes qui se chevauchent. Le lieu du drame, sa maison et l'océan, et une vision altérée de sa fille. Encore une fois, pas de monstre, pas de sensation d'horreur. On aurait pu justement et facilement basculer dans le côté horrifique, traumatisant, oppressant dans cet arc, car c'est exactement là que le fantastique peut s'exprimer. On l'a déjà vu dans d'autres jeux. Et mais non, on reste dans un univers sombre, triste peut-être, mais poétique et touchant à sa manière. Et même si personnellement j'aurais souhaité quelque chose de plus torturé encore, je dois dire que ça matche vraiment et que cela suffit à l'ensemble. Il est à noter que le jeu possède plusieurs fins et qu'il est toujours possible, pour 2 ou 3 heures de plus, à faire d'autres actions en revenant dans la partie une fois la campagne terminée. Under the Wave traduit par analogie le sentiment profond de solitude que l'on subit par un traumatisme. Nous utilisons l'expression « être sous l'eau », « se sentir noyé » ou encore « se prendre une vague de » pour imager une forme d'impuissance face à un événement qui, tel une vague, vous submerge et vous assomme. Et ici, cela prend tout son sens. Durant ces 7 à 8 heures en ligne droite, le jeu ne mettra pas le fin joueur ou la fine joueuse que vous êtes dans le creux de la vague. Il ne va pas non plus à contre-courant du genre dans le but de briser ses codes. Il est clair pour moi que les développeurs ont su surfer sur les limites fixées de leurs propositions sans jamais les dépasser et qu'ils ont su prendre les risques d'offrir un univers rarissime et très soigné et qui saura peut-être faire chavirer vos cœurs par une narration poignante. Très bientôt pour un prochain podcast. Ciao.